Bienvenue tout le monde. Juste un petit mot avant d'aller dans la lecture des Écritures. Je reviens sur notre invité de vendredi prochain, Christian Frappier. Je le connais personnellement, c'est pas un ami intime, mais c'est quelqu'un que j'ai côtoyé à plusieurs reprises et eu des belles conversations avec lui. Et on voulait simplement vous donner un peu une idée du genre d'approche qu'il va avoir dans son témoignage. Ça peut vous aider, vous, à penser à des personnes en particulier que vous aimeriez inviter. Christian est un artiste, premièrement. C'est un musicien professionnel qui, après sa conversion au christianisme, a toujours continué à évoluer dans le milieu professionnel séculier. Donc, il vit de ça depuis toujours. Très engagé à Montréal avec des artistes comme Edgar Borry ou comme Judy Richard ou des gens comme ça. Un bon ami de ces personnes-là. Mais ce qui est important de savoir de Christian, surtout, c'est qu'il ne vient pas d'un arrière-plan évangélique. D'accord? Et c'est important parce qu'il y a plein de gens que vous avez à cœur, il y a des gens que vous côtoyez, il y a peut-être des gens ici ce matin qui vous venez pas d'un arrière-plan évangélique puis vous posez toutes sortes de questions. Et Christian vient pas de cet arrière-plan-là. Son père, un prof de cégep, c'est un milieu intellectuel, artistique, cultivé. Et je parlais avec lui cette semaine, j'ai dit « Comment tu te définirais? Est-ce que tu dirais que tu étais athée? » Puis c'est vrai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Christian, il m'a dit, je pense que j'étais comme la majorité des gens. J'étais pas un athée. J'étais pas contre Dieu. Je me serais pas déclaré un agnostique ou quoi que ce soit. Tout simplement, Dieu faisait pas partie de l'équation. Dieu faisait pas partie de mes réflexions. J'avais pas besoin d'amener Dieu dans l'équation. Personne l'avait amené dans sa vie. Et lui, il ressentait pas ce besoin-là. La vie est déjà bien occupée. La vie est difficile. Il y a toutes sortes de défis. Pourquoi se compliquer la vie avec une autre question encore? Et donc, Dieu était simplement pas là dans le champ de ses réflexions, de sa vie. Et il y a plein de gens que vous côtoyez, des collègues de travail, des amis, pour qui c'est tout simplement ça. Ils ont peut-être une opinion sur les religions, mais une opinion réfléchie sur Dieu, souvent pas, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. C'est quelque chose de très secondaire. Et donc, dans son cheminement à lui, ça a été un cheminement très progressif, où Dieu est apparu dans le portrait. Et puis, progressivement, il s'est intéressé à la personne de Dieu, mais ça a été un cheminement empreint de doutes, avec beaucoup de doutes. Ça fait partie de son parcours, de son histoire. Et donc, je voulais vous mentionner tout cela parce que, vous savez, des fois, on invite des personnes, et dépendamment des gens, leur arrière-plan, leur histoire, des fois, on craindrait de se retrouver avec un témoignage très, très percutant d'une vie bouleversée. Je suis passé de la prostitution, pimp, n'importe quoi. Pouf, j'ai rencontré Jésus. Puis il y a des beaux témoignages comme ça. D'accord? C'est vraiment des beaux témoignages. Celui-là aussi, c'est un beau témoignage d'un autre ordre, plus simple, plus progressif, où vous n'arriverez pas avec quelqu'un qui va avoir le sentiment d'aucune manière de se sentir méprisé parce qu'il n'est pas croyant. Christian est quelqu'un qui est extrêmement respectueux et il s'en fait un point d'honneur. Aujourd'hui, il est très impliqué sur l'équipe pastorale à l'église du Plateau, sur le Plateau Mont-Royal. Et il est resté là parce que c'est son cercle, c'est son milieu, ce sont les gens qu'il atteint avec l'Évangile régulièrement. Et donc, l'église du Plateau, dans son approche, veut que ces gens-là, qui sont des milieux, des fois d'un arrière-plan plus cultivé, artistique, intellectuel, se sentent respectés dans leur cheminement. Mais il a donné son témoignage un peu partout, à Saint-Hyacinthe, à Terrebonne. Et ce qu'il me mentionnait, puisqu'il n'est pas très connu, c'est que quand même, à chaque fois, après son témoignage, bien des gens venaient le voir et disent « Si j'avais su, j'aurais pensé à des personnes à inviter. » Donc, j'ai voulu prévenir ça, d'accord? Que vous ne disiez pas après « Ah, si j'avais su, vous savez, pensez à des gens, ils vont se sentir respectés dans leur cheminement. Si Dieu ne fait pas partie de l'équation, ça va être un bon témoignage pour ces gens-là. » C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va lire la parole de Dieu. Père éternel, on est assemblés ce matin parce que tu fais partie de notre équation, de toute évidence. Tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Tu t'es fait connaître à nous à travers le témoignage de ta parole. Et tu nous as attirés à toi, Seigneur, et tu as parlé à nos cœurs. Et pour chaque personne qui est dans cette salle, qui a cru en Jésus-Christ, de manière indéniable, nous pouvons affirmer que tu nous as attirés à toi, Seigneur. Je pense, Seigneur, que chacun d'entre nous, on pourrait déclarer que tu as été le facteur déterminant dans notre cheminement, Seigneur. Personnellement, je ne te cherchais pas. Je ne te cherchais pas, je te fuyais, Seigneur. Mais tu as été persistant, tu as été patient et tu as été gracieux et tu l'es encore à chaque jour de ma vie, Seigneur. Alors, je te prie de venir nous parler à travers ce beau passage où tu nous parles, Seigneur, du peuple d'Israël, tu nous parles de ton peuple, Seigneur, et tu nous parles de cette famille spirituelle que tu t'es donnée, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Dans le passage de ce matin, on couvre un très, très large passage. On va couvrir Romains 9, 10 et 11. Et donc, on va faire quelque chose d'un petit peu différent pour la lecture des Écritures. C'est moi qui vais faire la lecture. Et je vais lire simplement des portions. Je ne vais pas vous lire tout le passage. D'accord? C'est trois chapitres. Je vais lire simplement des portions. Puis je vais essayer de vous donner un petit peu le fil conducteur de l'argument de Paul. C'est très intentionnel si on prend trois chapitres. Ça veut dire qu'on va survoler ce matin, on ne sera pas en profondeur dans le texte. C'est un texte que plusieurs d'entre vous auriez voulu justement qu'on débatte ensemble pendant des heures, parce qu'il y a des grandes questions qui sont adressées dans ces trois chapitres-là. Mais il y a une idée qui est là, qui est bien présente. En fait, Paul, à ce point-ci, dans l'Épître aux Romains, adresse une question. Je vais la formuler comme ça. Est-ce que Dieu a manqué son coup avec Israël? Est-ce que Dieu a échappé Israël? Et c'est ça la question à laquelle Paul cherche à répondre dans ce passage-là. Est-ce que Dieu a échappé Israël? Parce que, voyez-vous, ce livre-là nous vient des Juifs. Vous avez tout l'Ancien Testament, c'est indéniable, mais le Nouveau Testament aussi, ou à peu près dans son entièreté, nous vient des Juifs. Le christianisme est né à Jérusalem, est né en Israël. Je veux dire, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de question, le peuple de Dieu, c'est qui? C'est Israël. Paul lui-même va déclarer ici, c'est celui qui a l'adoption, l'élection, les promesses, le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, en connaissez-vous beaucoup des Juifs qui ont cru en Jésus-Christ? Connaissez-vous beaucoup de Juifs qui sont, peut-être qu'ils se disent des Juifs messianiques, qui croient dans Jésus comme étant le Messie? Je veux dire, à l'époque de Paul, déjà lorsque Paul écrit sa lettre aux Romains, l'Évangile est en train de se répandre à une vitesse 10x dans le milieu païen comparativement à chez les Juifs. D'accord? Au début, effectivement, c'était des Juifs qui se convertissaient. L'Évangile a commencé à Jérusalem. Mais très rapidement, la réception de l'Évangile, la réceptivité, l'ouverture était beaucoup plus grande chez les païens que chez les Juifs. Alors, lorsque Paul arrive et écrit aux chrétiens de Rome, dans l'Église, il y a des Juifs qui sont là, convertis, qui ont cru en Jésus-Christ, ont reconnu en lui le Messie. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas, sont d'origine païenne. Et cette question-là était super importante à l'époque. À quoi on assiste ici? Est-ce que Dieu a changé son plan? Est-ce que Dieu a échappé ses promesses? Est-ce que Dieu a abandonné Israël? Et on cherchait à répondre à cette question-là ce matin, parce que Paul revient sur la question d'Israël dans les chapitres 9 à 11. Et Paul veut nous enseigner une leçon sur le peuple de Dieu super importante. Alors, on y va avec la lecture des Écritures. Si vous avez une Bible papier avec vous, vous êtes bénis. Ça va être plus facile à suivre, d'accord? Mais c'est correct, je n'ai rien contre les versions électroniques. C'est juste pour vous. Ça va être un petit peu plus difficile à suivre le flot de la pensée, d'accord? Mais si vous pouvez aller sur un visuel quelconque, allez-y. Si vous pouvez ajouter quelque chose, pas simplement avec l'écran, ça va être plus facile à suivre. Lorsqu'on arrive au début du chapitre 9, Paul fait vraiment, là, il a de l'air de prendre un virage à 90 degrés, voire 180 degrés. Il s'en va pas à l'opposé, mais tu comprends pas d'où il sort avec cette question-là. Il est dans l'exaltation lorsqu'on finit le chapitre 8. La fin du chapitre 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni des anges, ni les dominations, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Paf, j'arrive au chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être maudit, être anathème et séparé de Christ. Il dit, je voudrais être damné. Pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, par le sang, de qui est issu le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, Paul commence en faisant cette déclaration-là. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, des descendants d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, donc il cite l'Ancien Testament, « En Isaac, tu auras une postérité, une descendance appelée de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. On va revenir à tout ça tout à l'heure. « Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Puis là, Paul va adresser dans le passage qui suit, je reviens tout à l'heure là-dessus, mais Paul va adresser la difficile question de dire, oui, mais OK, si c'est pas tout Israël qui est fils et fille d'Abraham, comment ça fonctionne? Puis là, il introduit toute l'idée de l'élection. C'est pas la première fois qu'il en parle. Il en parle beaucoup plus tôt dans l'Épître aux Romains. C'est là partout. C'est partout dans la théologie de Paul. Mais disons que c'est le passage où Paul va développer le plus cette idée-là que Dieu choisit. Que Dieu se choisit une famille spirituelle. J'avance dans l'argument. On arrive vers la fin du chapitre 9, versets 30 à 33. Et ce que Paul va dire, c'est que la faute d'Israël, c'est qu'il cherchait Dieu, non pas par la foi, mais à travers la loi. Et que ça les a amenés à passer à côté du Messie, passer à côté de Jésus. Donc, Romains 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, en voulant dire que Jésus a été plus un objet de scandale pour eux qu'une révélation que c'est vraiment lui le Messie. Selon qu'il est écrit, c'est encore une fois l'Ancien Testament, « Voici, je mets en Sion, je mets en Israël, je mets à Jérusalem une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Israël n'a pas cherché la justice par la foi, mais par la loi, et donc ils n'ont pas cru en lui. On va lire encore les versets 1 à 4 du chapitre 10. Parce qu'ils ont cherché Dieu à travers la loi plutôt qu'à travers la foi, ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Justice de Dieu qui est quoi? La grâce en Jésus-Christ. On lit les versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. Donc Israël a cherché à connaître Dieu en présentant leur propre justice comme s'ils étaient capables d'honorer parfaitement la loi de Dieu. Or, la loi était un pédagogue qui était là pour démontrer que personne n'est capable d'honorer parfaitement la loi. La justice que Dieu vient nous offrir, c'est une justice qui nous est donnée par grâce. Elle nous est donnée en vertu d'un seul juste Jésus-Christ. Et si je m'entête à essayer de connaître Dieu à travers ma justice à moi, je vais passer à côté de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Verset 8, Romains 10, 8 à 13. La seule chose qui est nécessaire, c'est la foi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas d'œuvres qui sont là. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un simple acte de foi. On va au chapitre 11. Un seul verset. Paul revient sur sa question. Romains 11, 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et là, ce que Paul va faire, c'est qu'il va dire, Israël a rejeté Dieu pour un temps. Après avoir dit que tout le monde en Israël n'est pas vraiment descendant d'Abraham, on va revenir sur ça tantôt, il va dire, mais quand même, il va y avoir un moment où on va assister à un retour massif dans le peuple d'Israël. Et là, Paul fait une espèce d'argument rhétorique où il dit, voici ce qui s'est passé. Israël a rejeté le Messie afin que le Messie vous soit annoncé à vous. Il n'est pas en train de dire que c'est une improvisation de la part de Dieu, mais il dit afin que le Messie vous soit annoncé à vous, païens. Et il va en être ainsi jusqu'à ce que l'ensemble de ceux qui ont été choisis par Dieu parmi les païens pour faire partie de sa famille se soient convertis. Et alors, on va assister à un retour massif en Israël à Dieu. Donc, j'avance un peu dans mon argument, dans l'argument de Paul, Romains 11, versets 25 à 27. C'est exactement ça qu'il dit ici. Romains 11, 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, parce qu'eux autres ont cru en Jésus. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et donc, il nous dit qu'un jour, un reste d'Israël va définitivement revenir vers Dieu. Et on termine avec les derniers versets du chapitre 11 qui sont, je crois, peut-être les plus importants des trois chapitres. D'accord? Vous n'aurez pas le choix de dealer avec ces versets-là ce matin. Et si vous voulez grandir dans votre foi, vous n'aurez pas le choix de grandir dans votre appréciation de ces versets-là. Parce que dans cette section-là, Paul traite des questions qui dépassent l'entendement humain. C'est super important ce que je vous dis là. Si à travers la science, l'être humain essaie de comprendre tout l'univers, il n'en est pas de même de la théologie. Parce qu'il n'y a aucun être humain sensé qui va prétendre pouvoir saisir entièrement qui est Dieu. Même un athée qui va philosopher sur le concept de Dieu va comprendre que si Dieu est Dieu, il dépasse l'entendement humain. Autrement, il n'est pas Dieu. Et donc, pour avancer dans la foi, il y a un moment où je dois réaliser, comme l'a très bien illustré C.J. Mahaney, que lorsque j'avance dans la théologie, dans la connaissance et l'étude de Dieu, c'est comme si j'étais en train d'avancer dans l'océan. C'est le fun d'aller dans le sud sur le bord de la mer, puis d'avancer tranquillement. Même lorsqu'il y a des belles grosses vagues, c'est super trippant. Mais il y a un certain moment là où tu réalises que tu ne touches plus le fond. Puis si les vagues deviennent trop grandes, tu es mieux de te reculer. C'est comme ça lorsqu'on étudie la Bible et on étudie Dieu. Il y a certaines choses qui dépassent l'entendement humain, qui nous demandent de faire un pas en arrière. Juste pour dire, OK, je suis solide jusque-là. Après, je laisse certains mystères à Dieu. Romains 11, verset 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Certaines personnes vont s'empêcher de croire en Dieu toute leur vie parce qu'ils n'acceptent pas que Dieu est insondable. Certains vont abandonner la foi parce qu'ils n'acceptent pas que Dieu est insondable pour l'homme. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Alors, commençons par le début. Ce passage-là soulève toutes sortes de questions. C'est un des passages qui a fait couler le plus d'encre chez les théologiens. À mon avis, et j'espère ne pas offenser personne ce matin, à mon avis, ce n'est pas parce que c'est un passage qui est difficile à interpréter. Je ne crois pas qu'il y a de difficulté dans l'exégèse de ce texte-là. J'en vois pas. Je pense qu'il a fait couler beaucoup d'encre et qu'il continue à faire couler beaucoup d'encre parce qu'il est peut-être parfois difficile à accepter. Dans ce passage-là, on va voir des questions comme « Est-ce que c'est Dieu qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu? » Comment prier pour nos proches ou pour toute la ville? Comment les porter dans notre cœur? Est-ce que c'est Dieu qui est le facteur déterminant? Est-ce que c'est eux? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un si c'est cette personne-là qui doit choisir Dieu? Est-ce que je peux prier si c'est Dieu qui a déjà fait un choix? Comment je vis ça, toute cette question-là? C'est une chose pour moi de prier pour que je me trouve un emploi. Je me dis Dieu est souverain, puis il peut enligner une coupe d'affaires sans outrepasser la liberté du choix, la liberté, le libre arbitre de chacun. Mais si je prie pour la conversion de quelqu'un, comment ça se passe? Comment je vis ça? Comment est-ce que je porte ça dans mon cœur? Comment vivre avec les choses que je ne comprends pas, les mystères de Dieu? Comment regarder le peuple juif par rapport à Jésus? Question intéressante, hein? On va commencer par le début. On va commencer par le cœur de Paul pour son peuple. Alors, je reviens sur les versets 1 à 5. Je dis la vérité, donc Romains 9, 1 à 5. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Si vous pensez que c'est difficile de croire en Jésus-Christ, puis d'avoir des proches autour de vous qui ne croient pas, des gens que vous aimez. Si vous pensez que c'est difficile de voir vos enfants, de voir votre époux, de voir votre épouse, de voir vos parents, ne pas adhérer à la foi chrétienne. Songez à Paul un instant. Songez à Paul un instant. C'était un expert dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'était un grand théologien de son époque. Chez les Juifs, c'était un docteur de la loi. Il enseignait ces choses-là. Il était érudit, il était respecté. Et lorsqu'il a compris par une révélation de Dieu, lorsqu'il a saisi que les temps étaient accomplis, les temps étaient venus, le Messie est arrivé, Jésus était vraiment ce Messie-là que les Juifs attendaient. Les Juifs ont cherché dans chaque ville où ils passaient pratiquement à le mettre à mort tant ils rejetaient ce Messie-là. Paul était bien reçu par ceux qui n'étaient pas de son peuple. Alors comment est-ce qu'on doit vivre ça comme chrétien avec toutes ces questions-là de la souveraineté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, du choix, la responsabilité du choix de l'homme, puis comment est-ce qu'on porte tout ça? La bonne manière de le faire, c'est de le vivre avec une tristesse continuelle dans le cœur. C'est d'être constamment dans la prière. Paul dit, si je pouvais donner mon âme, puis être damné pour l'éternité afin d'en sauver quelques-uns. Ceux qui ont vu le vieux film, La liste de Schindler, si vous vous rappelez, à la fin, lorsqu'il aurait voulu prendre ses boutons de manchette, sa montre, il dit, j'aurais pu encore acheter un juif pour le libérer, de le faire se sauver d'un camp de concentration. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quelque chose de plus que j'aurais pu vendre pour pouvoir en sauver un autre. C'est la bonne manière de vivre cette question-là. C'est de porter en nous-mêmes, malgré toute notre joie dans la foi, c'est de porter en nous-mêmes une sorte de tristesse continuelle qui est là. Où on prie pour les gens puis on a à cœur les gens constamment. C'est la bonne manière de le faire. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu n'a pas échappé à Israël. Au contraire. Il continue et il va continuer jusqu'à la fin à se former une vraie famille, une famille spirituelle. C'est ça le plan de Dieu. Dieu n'a pas échappé à Israël du tout. Une famille spirituelle qui est composée de toutes les nations de la terre, d'Israël aussi. Voyez-vous, la première question qui est posée, c'est est-ce que Dieu remplit ses promesses? Paul dit très bien au verset 5, ce peuple-là, les Israélites, c'est le peuple qui a reçu les promesses, qui a reçu la loi, qui a reçu les alliances. Dieu lui a dit, tu seras mon peuple. Et Dieu lui a dit, je serai fidèle quand tu seras infidèle. Mais tableau, ils n'ont pas cru. Est-ce que Dieu a manqué à ses promesses? Et ce que Paul fait, verset après verset, tout l'argument, d'accord, de ces trois chapitres-là, ce que Paul cherche à démontrer, c'est que Dieu honore ses promesses, Dieu honore ses desseins, Dieu respecte son plan, Dieu est souverain, il n'a pas échappé quoi que ce soit, il honore sa parole. Et ça, c'est la trame de fond, d'accord? Si je voulais vous le montrer, je pourrais prendre presque chaque verset pendant trois chapitres pour vous démontrer que l'intention de Paul, c'est de dire, au contraire, Dieu est bullseye dans son plan, malgré les apparences. C'était comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Au verset 6, il dit, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Mais je dois aller lire le plan de Dieu et saisir le plan de Dieu. » Au chapitre 11, verset 1 et 2, il va dire, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. » qu'il a connu d'avance. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. En fait, les Écritures nous enseignent, et c'est ce que Paul défend ici aussi, c'est que Dieu n'échappe jamais à une promesse. Dieu ne manque jamais à aucune de ses promesses. Romains 11, 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et je vous ramène à ce passage-là qui va être la clé à la fin de l'exposé quand même, à la toute fin du chapitre 11, 33-36. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Si vous êtes familier avec le livre de Job, c'est l'argument du livre de Job. Verset 36, et c'est là que je vais en venir, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Les Saintes Écritures nous disent que l'univers existe par Dieu et pour Dieu. L'histoire de l'univers existe par Dieu, selon les desseins de Dieu, selon les plans de Dieu, selon les promesses de Dieu. et l'univers. Tu existes pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on écrit l'histoire. C'est vrai que l'être humain écrit l'histoire à quelque part. C'est une des beautés d'avoir été créé à l'image de Dieu, c'est qu'on écrit l'histoire. Certains d'entre nous, on va écrire l'histoire avec un grand H. Notre nom va passer à l'histoire. Peut-être pas entre nous ici, je ne sais pas, peut-être pas. Mais certains êtres humains vont marquer toute l'histoire de l'humanité. On connaît leur nom, ils nous viennent à l'esprit. L'être humain écrit l'histoire. Vous écrivez votre histoire. Mais c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas votre histoire à la fin de la journée. C'est l'histoire de Dieu. À la consommation de toutes choses, lorsque Christ va revenir, il va apparaître très clairement que cette histoire-là, c'est l'histoire de Dieu et Dieu est en train d'écrire son histoire. Dieu n'échappe jamais aucune de ses promesses. Il est entièrement souverain. Il est parfaitement souverain. Et si vous arrivez à vous réconcilier avec Romains 9, 10 et 11, c'est parce que vous allez accepter cette vérité-là. J'ai presque le goût de vous dire, si vous devenez chrétien, c'est parce que vous allez accepter cette vérité-là. Et certains d'entre vous avaient de la difficulté à progresser dans votre foi, dans votre cheminement spirituel, parce que dans le fond, c'est difficile pour vous d'accepter que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Et que c'est l'histoire de Dieu, ce n'est pas votre histoire à la fin de tout ça. C'est l'histoire de Dieu, c'est lui qui l'écrit. Et Dieu a le pouvoir de respecter sa parole. Regardez bien chapitre 9, verset 20, ce qu'il dit. Écoutez, si à la fin de l'exposé, je vous ai barouetté partout, puis vous dites, « Ouf, il y en a beaucoup. » Faites-vous un cadeau, s'il vous plaît. Cet après-midi, lisez 9, 10, 11. D'accord? Si vous êtes familier avec le passage, vous me suivez. Si vous ne l'êtes pas, allez lire ça cet après-midi, s'il vous plaît, pendant que c'est dans votre esprit tout ça. D'accord? Au verset 20, voici ce qu'il dit. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Et donc, pour Paul, après toutes les questions, les grands débats théologiques, après toutes ces questions, à savoir est-ce que Dieu a fait une erreur, est-ce qu'il a échappé Israël, qu'est-ce qui se passe? Après tout ça, ce qui est absolument limpide et clair pour Paul, c'est que c'est Dieu le potier. C'est lui qui façonne l'argile, c'est lui qui façonne votre vie, ta vie, ma vie, c'est lui qui façonne l'histoire de l'humanité. Et oui, on a été créé à l'image de Dieu, et oui, on fait des choix, et oui, on écrit notre histoire, mais cette histoire-là, par une fonction mystérieuse de Dieu, concourt parfaitement à celle que Dieu est en train d'écrire. Et donc, il n'y a rien dans mon histoire personnelle que je vais écrire, aucun choix que je vais faire qui va surprendre Dieu d'une manière quelconque à ce qu'il devrait improviser un peu son histoire. D'une manière mystérieuse, la souveraineté de Dieu est parfaitement à l'œuvre à chaque instant dans l'histoire de l'univers et dans ton histoire personnelle. Parfois, dans notre expérience, dans notre vécu, on en prend conscience. Si vous êtes chrétien, peut-être même si vous n'êtes pas chrétien, si vous croyez en Dieu, il y a des moments où il se passe quelque chose, puis en rétrospective, tu regardes en arrière, tu dis « Aïe, aïe! » Il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière cette affaire-là. C'était arrangé avec le gars des vues, c'était trop, trop fort. Parfois. Bon, si vous n'êtes pas croyant, vous allez peut-être dire, ben oui, gang de crédules, vous croyez dans n'importe quoi, vous faites cette lecture-là. Je serais curieux de m'asseoir avec toi assez longtemps pour voir si on ne peut pas en trouver quelques-uns dans ta vie, des moments où tu dis, ouch, il y a quelqu'un qui a écrit ce bout-là, puis c'était pas moi. Même si moi, j'étais un agent dans ce petit moment-là, j'étais un acteur dans cette scénette-là. Hey, il y avait un metteur en scène derrière ça, c'est pas possible. Et donc, il y a des moments dans nos vies ou dans notre expérience personnelle, on prend conscience de ça. Puis on lutte avec cette question-là. Parce qu'il y a tellement de moments dans notre vie où ça fait mal de penser que c'est encore Dieu qui écrit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des moments dans nos vies où on aimerait mieux croire que ce n'est pas Dieu qui l'a écrit, ce chapitre-là. Et vous comprenez, il y a des agents extérieurs, il y a quelqu'un qui vient me faire du mal, mais je veux dire, quand tu crois dans la souveraineté de Dieu, quand tu sais qui est Dieu, tu sais qu'il y a quelque part, je veux dire, le gars qui est rentré chez moi avec un poignard et qui m'a poignardé 28 fois, si Dieu voulait, il s'est tout fait dans le cadre de porte, tu comprends? Sa crevette qu'il a gardé en travers ici puis il mourait là, il ne se rendait pas jusqu'à moi. Fait qu'il y a des moments, et là, je déconne, là, je fais des blagues, mais il y a des moments de grande souffrance où c'est difficile de vivre avec cette notion-là. Dieu est souverain. Dieu est souverain. J'ai tellement besoin de l'Évangile dans ces moments-là pour revenir à la croix, pour revenir à Christ, pour croire à nouveau dans la bonté, dans l'amour de Dieu. Parce qu'au milieu de la souffrance, j'ai juste l'amour concret de Dieu manifesté en Jésus-Christ auquel je peux m'accrocher. Parce que la souffrance fait que ça ne peut pas être quelqu'un de bon qui a écrit ce chapitre-là, à mes yeux. Mais c'est clair pour Paul, Dieu accomplit ses promesses, Dieu est souverain, Dieu n'échappe absolument rien, Dieu est souverain et il est capable d'accomplir toutes ses promesses. Alors la question demeure, si Dieu est souverain puis il y a tellement peu de Juifs qui ont cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Qu'est-ce qu'il en est d'Israël? Qu'est-ce qu'il en est des Juifs? Et là, Paul nous dévoile ici, il a déjà commencé à le faire avant, de cette idée d'une famille spirituelle. Le plan de Dieu depuis toujours, c'est de se former une famille spirituelle. Et je pèse chacun de mes mots. Le plan de Dieu depuis toujours, c'est de se former une famille spirituelle. Dieu allait se doter, se donner une famille spirituelle. Regardez bien le chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et donc, je dirais que pour la première fois, de manière aussi claire et aussi limpide, Paul est en train d'adresser le simple fait que ce n'est pas parce que tu es un descendant par le sang, un descendant d'Abraham, que tu es un fils, une fille de la promesse. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Et si Dieu a choisi Israël en général, il n'a pas choisi spécifiquement chaque personne en Israël. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Le plan de Dieu n'a jamais été de se constituer simplement une famille à travers une lignée par le sang. La semaine prochaine, on va avoir des baptêmes. On a 3 baptêmes. Il n'y en a pas qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. En fait, les gens qui vont se faire baptiser ont pris le temps d'écrire leur témoignage pour raconter l'histoire, comment Jésus est entré dans leur vie. Ils vont nous expliquer à travers ce mot de témoignage-là comment ils sont entrés dans cette famille spirituelle-là. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés. C'est parce que Dieu a voulu se former une famille spirituelle. Ce n'est pas une famille d'une lignée par le sang. Ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, dans un sens, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple? Honnêtement, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple si on vous avait tous baptisés quand vous étiez bébé? Après, tu peux toujours décider que tu quittes l'Église, mais dans ton image de toi-même, lorsque quelqu'un t'accroche et dit « Toi, es-tu chrétien? » J'ai été baptisé. Puis je veux dire, il y en a plein de Québécois que tu vas approcher et tu leur dis « T'es quoi là, toi? T'es quoi? » Ben, j'imagine, je suis chrétien, je suis catholique, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Puis ça fait partie de ton identité. Décider d'abandonner cette identité-là, c'est vraiment faire un choix très, très conscient de dire « Je ne suis pas. Ce baptême-là, c'était celui que mes parents m'ont imposé, mais ce n'est pas le mien. » Dans un sens, est-ce qu'on ne vous simplifierait pas la vie? Tous ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, on enlèverait un gros dilemme, non? Après ça, tu décides, mais quand même, tu n'as pas à te poser la question. Mais voyez-vous, Dieu veut qu'on se pose la question. Dieu veut qu'on se la pose, la question. Ça serait plus simple pour moi de le faire comme ça. Ça aurait été. C'est pas ça que Dieu veut. La famille de Dieu, c'est une famille spirituelle qui n'est pas constituée par les liens du sang. Et c'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés. Soyez là la semaine prochaine, venez écouter les baptêmes, venez écouter des témoignages. Ce que vous allez entendre, c'est la rencontre entre une personne et Dieu. Le moment où une personne est entrée dans cette famille spirituelle-là. Pour vous, peut-être que cette personne-là est entrée dans une église, elle s'est identifiée à un groupe religieux quelconque. Ce n'est pas de ça dont on parle. On ne peut pas rendre ça plus personnel et individuel que d'attendre que les gens soient en âge, de prendre une décision personnelle, les accompagner pendant plusieurs semaines, leur donner un cours, leur dire « Tu réalises-tu dans quoi tu t'embarques? Est-ce que vraiment c'est ta foi? Ce n'est pas celle de tes parents, non, c'est la tienne. Raconte-moi ton histoire. Raconte-moi encore ton histoire. Raconte-moi encore. OK, c'est ta foi. Good. » Parce que ça ressemble à ça, tu sais. On est pas mal, Péqui, pas mal. On voudrait surtout pas que tu te fasses des accrocs. Et cette famille spirituelle-là, Dieu voulait qu'elle soit formée de gens de toutes les nations de la terre. De toutes les nations de la terre. Partout sur la terre. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Et là, il s'adresse aux païens qui se sont convertis, aux non-juifs. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël, et moi je lis là, que moi je fais partie d'Israël, ça c'est ma lecture de Romains depuis toujours, je fais partie de l'Israël de Dieu. Mais je n'irai pas dans ça ce matin. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Romains 9, 30, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Et c'est ça la beauté de cette famille spirituelle-là, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a personne qui fait partie de la famille de Dieu qui peut vraiment prétendre qu'il cherchait Dieu. Il n'y a personne qui peut se présenter en disant « C'est par mes mérites que je suis là. » En fait, pour un grand nombre d'entre nous, notre histoire, c'est « Je ne cherchais pas Dieu. » Certains d'entre nous sont exceptionnels et disent « Oui, mais j'ai l'impression que j'ai toujours cherché Dieu. » OK, peut-être, je ne veux pas nier ton expérience. Mais moi, je ne cherchais pas Dieu, même si je suis pratiquement né dans une famille chrétienne. J'ai commencé à venir à l'église, j'avais 7 ans. Je veux dire, aussi loin que je peux remonter, les histoires les plus vieilles que mes parents m'ont racontées, c'était des histoires bibliques. Fait que dans ma tête, je viens d'une famille chrétienne. Vous savez quoi? Je ne cherchais pas Dieu. Tout ce que je cherchais, c'est à ne pas connaître Dieu. Je cherchais comment je pouvais vivre sans Dieu. La meilleure image biblique pour me définir, c'est Jonas. Et Dieu me ramenait constamment, constamment. Et donc, Dieu voulait se former une famille à partir de gens qui ne le cherchaient pas. Romains 9, 25, 26. Selon qu'il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ça, c'est la famille que Dieu voulait se former. Voyez-vous, le plan de Dieu, c'était de se constituer une famille spirituelle. Une famille choisie par Dieu. Choisie par Dieu. Pourquoi est-ce que vous croyez que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, était le peuple de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il était beau, fin, capable, particulièrement pieux, soumis, docile, obéissant, spirituel? Est-ce que c'est pour ça que Dieu a fait d'eux son peuple? Dieu a fait d'eux son peuple parce qu'il les a choisis. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Je veux dire, si on avait à leur donner une note de passage, il a fait le pire choix de l'histoire de l'humanité. Bon, je pense que c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire des autres peuples vraiment, là, mais vous comprenez? Je veux dire, ils ne les ont pas choisis pour leurs beaux yeux, c'est pas vrai, là. C'est un peuple rebelle, dans le langage biblique, au cou raide, à la nuque raide, constamment rebelle, impie, pécheur, rejetant Dieu. Chaque occasion était bonne pour se pousser de Dieu, pour ajouter des idoles à leur foi, constamment faire des alliances qui allaient les conduire loin de Dieu. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils ont choisi Dieu. Dieu les a choisis parce qu'il les a choisis, parce qu'il est gracieux. Et il en a toujours été comme ça. Dieu les a élus. Dieu les a élus. Et dans ce passage-là, Paul nous apprend que ce n'est pas tous les descendants d'Abraham qui sont fils et filles d'Abraham, mais seulement ceux que Dieu a choisis. Et on arrive dans cette question-là tellement difficile de l'élection. Comment fonctionne l'élection? C'est là partout à travers la Bible. Hein? Soit dit en passant, si vous dites, moi je suis chrétien, mais je ne crois pas dans l'élection. Il y a des chrétiens qui croient dans l'élection, il y en a qui ne croient pas. Faux. Tout le monde croit dans l'élection, c'est trop clair dans la Bible. Tout le monde croit dans l'élection. Bon, la question, c'est dans l'élection, c'est qui choisit? C'est ça la vraie question. Mais tout le monde croit dans l'élection. Juste pour mettre ça clair, tout le monde croit dans l'élection. Fait que la grande question qui est difficile, est-ce que c'est Dieu qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu? Parce que c'est clair qu'il y a un choix à faire. Et c'est clair aussi dans les Écritures que j'ai une responsabilité, j'ai des choix à faire. Dans les deux cas, la réponse est difficile. Puis écoutez, ce n'est pas un texte difficile à interpréter. C'est un texte difficile à accepter. Ce n'est pas un texte difficile à comprendre. L'exégèse de ce passage-là est simple. Peut-être très choquante, mais simple. Dans son argument, Paul va encore citer l'Ancien Testament à travers Romains 9, 10, 11. Je pense que dans toute la lettre aux Romains, c'est la section où il cite le plus l'Ancien Testament parce qu'il est en train d'adresser quelque chose de difficile et il veut que les Juifs puissent voir que ça a toujours été comme ça dans les desseins de Dieu, dans les plans de Dieu, il devait en être ainsi. Et donc, Paul va faire un argument avec Jacob et avec Ésaü. On va aller le lire, d'accord? Au verset 8, Romains 9, 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et si vous avez été choqué ce matin, là, préparez-vous, les oreilles vont vous sciler. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Sarah aura un fils, c'est une promesse qui avait été donnée à Abraham. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, passe une génération après, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et Paul se sert de la naissance de ces deux fils-là, sur qui déjà une promesse avait été prononcée, « Jacob sera mon bien-aimé, Jacob sera béni, Ésaü ne recevra pas la bénédiction, il va recevoir la malédiction. » Et regardez bien l'argument que Paul fait, je vous le dis, c'est pas difficile à interpréter. Il est limpide. Verset 11. « Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Et donc, ce que Paul développe ici, c'est que Dieu, d'une manière mystérieuse, mais souveraine, choisit ceux qui vont faire partie de sa famille. Avant qu'ils aient péché, bien ou mal, parce que ce n'est pas sur la base des œuvres. Rappelez-vous, on n'est pas sauvé sur la base des œuvres. Si c'est sur la base des œuvres, on est tous fall-ball. Il n'y en a pas un qui est sauvé. On est sauvé sur la base de la foi, sur la base des œuvres de Christ. Et donc, ils ne sont pas élus sur la base des œuvres. Ah, je vais regarder dans l'avenir comment il va marcher. Celui-là, il est élu. Celui-là, non, il ne marche pas. Mais il va plus loin que ça encore. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Et donc, je suis confronté à un mystère dans ce passage-là. Le mystère, c'est comment ça marche, cette affaire-là? Parce que c'est très, très clair dans la Bible que l'être humain est responsable. L'être humain est responsable de ses choix. Je ne pourrais pas me présenter devant Dieu en disant, « Regarde, Dieu, il faut que tu me donnes une passe droite parce que c'est pas de ma faute, tu ne m'avais pas élu. » Je ne pourrais pas le faire. C'est sérieux, là, ce que je dis. C'est super sérieux. Je suis pris avec ce dilemme-là lorsque je lis les Écritures, que l'être humain est vraiment responsable. Responsable de faire des choix. Responsable de choisir le bien et de renoncer au mal. Constamment dans les Écritures. Mais d'autre part, ici dans la question de l'élection, mais partout à travers la Bible, la souveraineté absolue de Dieu qui accomplit parfaitement ses desseins en tout temps et constamment affirmé à travers les Écritures. C'est là partout à travers la Bible. Ici, ça vient nous chercher personnellement. Et donc, ça crée une tension en nous. On dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et Paul est conscient de cette question-là. Verset 14, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Oui, mais est-ce que Dieu n'est pas injuste? Et avant d'argumenter un petit peu avec vous, je veux faire quelque chose parce que je ne suis pas là pour vous apporter mes arguments, je suis là pour prêcher le texte. Je suis là pour exposer la parole de Dieu. Et il y a quelque chose que Paul fait ici qui est super important. De voir. Super important. Paul soulève le problème éthique, le problème philosophique, la question morale que tout le monde se pose. Oui, mais si c'est Dieu qui choisit, pourquoi est-ce qu'il condamne? Avez-vous remarqué comment il répond à cette question-là, si vous êtes familier avec le passage? La réponse de Paul, c'est... Pardon? Pardon? T'es qui, toi, pour questionner Dieu? Est-ce que le vase interroge le potier sur la fonction pour laquelle il a été fait? Non, mais moi, je voulais être un vase en or qui serait vendu, un vase de Chine qui serait glorieux et beau, d'une grande valeur, puis t'as fait de moi une cruche. Paul soulève la question morale. Il soulève la difficulté. Et sa réponse, c'est quoi? Il est vraiment bête. Il est vraiment bête. Il nous dit, pardon? Mais t'es qui pour questionner Dieu? Je ne comprends pas. C'est-tu toi qui as expliqué à Dieu comment faire l'univers puis t'as expliqué toutes ces choses-là? Et où je veux en venir avec ça, c'est que c'est pas que Paul est à court d'arguments ici. Si vous pensez que Paul est à court d'arguments ici, vous ne connaissez vraiment pas l'apôtre Paul. Il faut que vous lisiez le Nouveau Testament, je vous dis, Paul n'est pas à court d'arguments, il y a plein d'arguments pour ça, d'accord? Si Paul avait voulu commencer à argumenter, il aurait pu soulever la question autrement, tout simplement en disant, attendez un peu, vous parlez de justice, parlons de justice un peu. Est-ce que vous trouvez vraiment juste qu'un être parfait, pur et saint, comme Jésus, meure pour des gens injustes comme vous? C'est ça que vous appelez la justice? Vous trouvez ça juste, vous, que Jésus soit mort sur la croix pour vous? Moi, je trouve ça pas mal injuste. Mais voyez-vous, dans les Écritures, il n'est jamais question de ta justice, puis de ma justice, puis de la justice que moi je détermine à être juste ou injuste. Paul est super clair ici dans le passage. Il est question de la justice de Dieu. S'il était question seulement de la justice des hommes, Dieu reste au ciel, on s'en va en enfer, c'est juste ça qu'on mérite toute la gang. Case réglé. Fini. Dieu est juste. Mais il n'est jamais question dans les Écritures de la justice des hommes. Il est question d'une justice divine qui encourt la grâce. Et Dieu, dans sa justice qui est pour moi mystérieuse. Et encore là, c'est pas pour faire le braillard, puis c'est pas pour jouer avec vos tripes. Quand je me retrouve seul devant Dieu, tout à l'heure, on a chanté « Merci Jésus, ton sang seul suffit pour me préserver de la colère de Dieu. » Mon cœur était à l'envers parce que chaque fois que je considère Yannick, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Je veux dire, en définitive, c'est comme si j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste là-dedans parce que je ne méritais pas cette grâce-là. Et Dieu nous dit justement, c'est une grâce. Arrête d'essayer de mériter mon amour, ma grâce. Tu ne peux pas le faire, tu ne pourras jamais le faire. Alors voyez-vous, Paul aurait pu argumenter. Paul aurait pu débattre. Il aurait pu débattre. Ce n'est pas ça qu'il fait. Il dit, je comprends qu'il y a une difficulté. Je comprends qu'il y a quelque chose de difficile à recevoir ici. Je saisis bien cela, les amis. Mais à la fin de la journée, la seule manière que vous allez être en paix avec ça, c'est si vous réalisez que vous n'êtes pas Dieu et que Dieu seul est Dieu. Et vous allez devoir atterrir là à la fin de la journée, à la fin de votre vie. Vous allez devoir atterrir là si vous devez faire partie de la famille de Dieu. Et vous savez quoi? Ce n'est pas le plus grand des mystères dans la Bible, celui-là. Il y a des mystères pas mal plus compliqués que ceux-là encore. Et il n'y a pas de solution parfaitement logique à cette grande question-là de la responsabilité humaine et de l'élection, sinon qu'il s'agit d'un mystère clairement exprimé, exposé dans la Bible, mais pour lequel je n'arrive pas à réconcilier parfaitement tout cela logiquement. Tout ce que je peux conclure, c'est que d'une manière mystérieuse, la volonté souveraine de Dieu concourt à quelque part avec ma volonté personnelle. D'une manière mystérieuse. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul termine cette section-là, à la fin du chapitre 11, avec cette idée tellement précieuse, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, au verset 33, Romains 11, 33. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Si tu veux connaître le Dieu de la Bible, il y a un moment où tu vas devoir plier le genou et reconnaître que tu n'es pas Dieu. Et que Dieu sera Dieu dans ta vie lorsque tu arrêteras de penser qu'il mérite de l'être seulement si tu peux le saisir au complet. Je ne comprends pas ma femme. Je ne me comprends pas moi-même. Ça fait longtemps que j'ai appris que je n'avais pas essayé de comprendre parfaitement Dieu. Et tu n'as pas le choix d'arriver là. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu es capable d'apprécier cette grâce incroyable. L'Évangile prend une beauté extraordinaire lorsque tu réalises que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est lui qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as attiré Dieu à toi, c'est lui qui t'a attiré à lui. Tu n'étais pas plus brillant qu'un autre pour dire « Wow, hey, j'ai compris, c'est le jackpot, l'Évangile, je vais le prendre. » L'autre, il est trop tata pour le prendre. Ça ne marchait pas de même. J'étais tata, pareil comme tout le monde. C'est une grâce de Dieu qui se passe là. Et c'est Dieu qui choisit sa famille et à un certain moment donné, je dois plier le genou pour pouvoir adorer Dieu. Et qu'est-ce que je fais avec mes proches dans ce cas-là? Est-ce que je peux prier pour eux? C'est comme si tout était joué d'avance. Oui, mais regardez ce que Paul fait. Chapitre 10, verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Encore une fois, de manière mystérieuse, Dieu a décidé que sa volonté souveraine, à sa volonté souveraine, on allait participer chacun d'entre nous. La part de Judas, ça a été de trahir Jésus. Par la grâce de Dieu, ma part à moi, c'est d'annoncer l'Évangile. Par la grâce de Dieu, ma part à moi, c'est de prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et Dieu, d'une manière mystérieuse et souveraine, va en sauver quelques-uns. Et donc, je vais prier pour ma famille, pour mes proches, pour mes voisins, pour la ville de Longueuil, de tout mon cœur. Je vais porter cette tristesse-là dans mon cœur. Parce que clairement, ceux qui entrent dans cette famille-là le font par une foi personnelle et individuelle. Tu entres dans cette famille-là par un cheminement personnel, un cheminement de foi, et tu décides de croire en Jésus. Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et c'est simplement par la foi qu'on entre dans cette famille-là. Comment la souveraineté de Dieu concourt-elle avec mes choix personnels? C'est un mystère pour moi. Mais à celui qui embrasse la foi, celui qui croit en Jésus, de plus en plus la conviction s'installe qu'il n'était pas seul dans cette démarche-là, mais qu'il y avait un être surnaturel qui l'accompagnait dans cette démarche de foi-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage-là, concrètement? Le Dieu qui m'a sauvé est souverain. Et donc, lorsqu'il me promet qu'il ne va pas m'échapper, cette promesse-là repose sur le fait qu'il m'a choisi avant même que j'existe. Cette promesse-là repose entre les mains de celui qui accomplit toujours ses promesses. Qu'est-ce que je peux conclure pour Israël? Dieu ne les a pas échappés, mais tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas fils d'Abraham. Et un temps va venir, peut-être de notre vivant, peut-être pas, un temps va venir où Israël va revenir. Ça va être glorieux, ça va être superbe, ça va être majestueux. De voir une masse de Juifs qui se tournent vers Christ, ça va être extraordinaire. Ça m'aide à saisir davantage encore que je suis sous la grâce. Ce n'est pas parce que je vais dans une église baptiste ou dans une église évangélique, ce n'est pas parce que j'ai une Bible à la maison, ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne. Mais c'est par pure grâce si personnellement j'adhère à la foi en Jésus-Christ. Et personnellement, ça me motive à prier. Ça me motive à prier parce que je sais que la personne pour qui je prie n'est pas seule dans cette équation-là. Mais la main souveraine d'un Dieu qui a aimé l'humanité au point de donner son Fils peut intervenir en faveur de son salut. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient t'adorer ce matin en reconnaissant que tu es Dieu et que tu es souverain. Seigneur, je viens t'adorer en reconnaissant ces mystères qu'il y a dans ta parole. Mystère de l'élection, Seigneur. Mais bien avant ça, mystère de ton amour pour nous. Mystère, Seigneur, de ce Fils parfait qui se livre pour nous. Seigneur, personnellement, j'ai connu qu'au-delà de toutes ces choses que je ne saisis pas sur toi, j'ai compris une chose, la plus précieuse pour mon âme, pour mon cœur et pour mon éternité. J'ai saisi l'amour de Jésus-Christ. J'ai saisi la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour le salut de mon âme. Seigneur, je te remercie de ce que l'Évangile a été un objet de scandale en Israël, parce que l'Évangile a été répandu, annoncé d'autant plus rapidement, Seigneur, à toutes les nations de la terre. Seigneur, je t'adore parce que ton plan a toujours été d'avoir une famille spirituelle composée de toutes les nations de la terre, de gens que tu aurais choisi, appelés, Seigneur, élus, attirés à toi, de gens qui répondraient personnellement, individuellement, consciemment, par la foi simplement, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour ceux qui au milieu de nous, autour de nous, nos proches, sont en lutte avec cette idée d'un Dieu souverain, sont en fait en lutte avec l'idée de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, parce qu'ils considèrent les choses et toutes sortes de choses leur semblent injustes et difficiles à accepter, Seigneur. Je prie d'ouvrir les yeux de leur cœur afin qu'ils découvrent en eux-mêmes leur propre injustice et qu'ils acceptent la justice de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen.